RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Discussion, débat avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec Charles Consigny, l'avocat, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, et Joël Dagosséry, la coach de...
Nous sommes l'équipe des I, les trois I. Consigny, ouais. Dagosséry, Bonamy.
C'est la deuxième heure des GG. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Glucksmann ou Mélenchon qui peut faire gagner la gauche en 2027. Une amende de 500 euros pour les consommateurs de drogue. On passe de 200 à 500. C'est ce que confirme Laurent Nunez. 500 euros plus la possibilité de saisir ou d'annuler le permis de conduire. Est-ce que ça peut être dissuasif? Vous en parlez avec les GG, avec les grandes gueules. Commençons par les réseaux sociaux. Ça aussi, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on rappelle que le pays pionnier en la matière, c'est l'Australie. En France, on a une volonté de faire la même chose, volonté présidentielle et volonté de l'ancien Premier ministre, aussi ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
Oui, et on veut aller vite, hein, puisque le gouvernement a engagé une procédure accélérée sur ce texte. Vous savez que... on fait voter beaucoup de lois en France, mais la plupart ne sont pas appliquées ou sont appliquées un an après. Là, on veut aller vite et on veut que dès la rentrée prochaine, là, en 2026, les réseaux sociaux soient interdits aux moins de 15 ans, qu'il y ait également l'interdiction des téléphones portables au lycée. Pour l'instant, c'est uniquement pour les écoles et les collèges. Donc, c'est une proposition de loi des députés du groupe Renaissance. C'est la députée Laure Miller qui porte ce texte. Alors, le problème, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'il y a un dispositif européen, le droit européen en tout cas, qui nous l'empêche, a priori, parce que c'est l'Europe qui doit statuer là-dessus. Donc il va falloir contourner le dispositif européen, le droit européen. Bon, et puis la deuxième chose, c'est comment, dans la réalité, on va vérifier l'âge. Est-ce qu'on peut avoir un système de vérification qui soit précis, d'autant plus que dans la proposition de loi, on va lister les réseaux qui seront interdits, et puis d'autres qui seront soumis à autorisation parentale, et puis d'autres, enfin, qui pourront être autorisés, notamment ceux qui ont des vertus...
l'usine à gaz.
Encyclopédiques, pédagogiques. Donc ça devient compliqué. Donc il y a le principe, la réalité, est-ce que ça sera vraiment applicable, et puis est-ce que c'est vraiment... à l'État de décider si nos enfants doivent aller, oui ou non, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas le rôle des parents? Une fois plus, est-ce que l'État nounou n'est pas en train de prendre le rôle et la place des parents?
Jean-Loup? Ah, ça tombe mal parce que je suis...
c'est toi qui as des lycées.
Très partagé. Je suis en conflit avec moi-même. Oui. Alors,
tu es déchiré intérieurement.
Déchiré. Le dilemme cornélien. Donc, j'ai du pour et du contre. Alors, le pour, c'est que moi, je suis... en principe, totalement favorable à l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs et même pour les mineurs jusqu'à 18 ans. Quand tu vois les ravages que ça fait, tu vois comment ça favorise le harcèlement, quand tu vois les phénomènes d'addiction, de ravages cognitifs, tu vois que la Chine, par exemple, vis-à-vis de ses jeunes, elle a une politique beaucoup plus stricte pour justement essayer d'éviter d'en faire des décérébrés et des abrutis complets. Donc moi, je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs jusqu'à 18 ans. Donc ça, c'est le pour, et je pense que le débat est très simple. Par contre, là où je suis un peu plus gêné, c'est que j'ai peur que cette mesure, qui en elle-même est bonne, qui en elle-même est saine, soit en fait un prétexte pour mieux fliquer les réseaux sociaux, notamment parce que je sais que dans l'idéologie de Renaissance, d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, ils ont quand même un problème avec la liberté d'expression. Et donc, sous prétexte de dire on va interdire ça aux mineurs, ce qui est une bonne chose, bah en fait, on va te forcer, quand tu t'inscris sur les réseaux sociaux, à mettre, par exemple, soit une reconnaissance faciale, soit le scan de ta carte d'identité ou de ton passeport. Et donc, en fait, si jamais tu critiques Emmanuel Macron, par exemple, si Charles Consigny, sous pseudonyme, Charlie 39,
moi,
par exemple...
Moi, je n'ai aucun pseudonyme sur
Charlie 39. Charlie 39 dit Emmanuel Macron a un accent anglais un peu grotesque, peut-être qu'en fait il sera identifié et là il verra l'ICE, la police anti-liberté d'expression d'Emmanuel Macron, débarquer chez lui. Et ça m'inquiète. Et que tous les gens qui peuvent avoir des idées proches ou d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, finalement,
c'est parce que les jeunes
tous les opposants,
premier, pense,
non mais tous les opposants majeurs au macronisme soient en fait flippés
Jean-Louis, tu sais que tu as un micro.
Oui.
Et en fait, comment fonctionne un micro? Quand on parle devant le micro,
Charlie,
il capte le son.
Tout à fait.
Et après, c'est retransmis aux gens dans leur radio. Les gens ne sont pas cachés derrière le mur du studio.
Il y en a.
Ils t'entendent. Il y en a. Même si je parle comme ça, les auditeurs m'entendent.
Alors, que dit Joël?
La maman.
Dago 1693.
Dago 1693. Voilà. Moi, je suis comme Charles, je n'ai aucun psychologue.
Jojo 93.
Je parle à visage découvert. Voilà, j'ai pas besoin.
Contrairement à ceux qui insultent, en général.
Contrairement à ceux qui insultent, les lâches.
Daron voilà. Josiane.
Daron.
C'est Daron.
Oui, je suis une
Daron Josiane du 16.
C'est pas toi, Milf 16.
Dago la Daron.
Non, je pensais.
Et toi, la daronne Josiane du 16.
Alors, toi, la daronne, t'en penses quoi?
Je suis comme Jean-Loup, je suis partagée. Je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Mais je ne suis pas pour que ce soit l'État qui le décide. Je suis pour que la responsabilité en revienne aux parents. Et ce matin, j'entendais des parents qui disaient « Bah oui, c'est quand même compliqué de dire non à mon enfant, à ma fille, à mon fils. Du coup, c'est bien qu'il y ait un cadre légal où je puisse m'en référer à plus haut que moi. Mais j'ai envie de dire aux parents, il n'y a pas plus haut que toi. » Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus haut que toi, à part Dieu, ouais, je suis croyante, mais je veux dire...
J'étais sûre que tu allais dire ça.
Oui, pardon.
Je l'ai senti venir.
mais je veux dire, pensez qu'en fait, l'État, maintenant,
fera
mieux que nous.
Mais ça, en France, on peut dire que l'État fait mieux que les parents.
Alors là, c'est catastrophique, tu vois. Donc, concernant ma fille, ce que je fais, c'est que je la vois, elle a ses youtubeurs, ses machins, etc.
Elle a quel âge, ta fille, maintenant ?
Elle a 15 ans, elle va avoir 16 ans dans 2 mois.
Est-ce que tu peux mesurer combien de temps elle passe par jour sur les
réseaux ? Non, c'est impossible pour moi de mesurer. Donc ce que je fais, c'est que je lui fais des sortes de lavages de cerveau qu'elle déteste. Mais je lui explique qu'il y a 2 profils sur les réseaux sociaux. Il y a les consommateurs et les créateurs. Alors soit elle est juste une consommatrice et elle choisit de savoir ce qu'elle consomme. Et je lui explique que c'est un algorithme. Je fais tout un truc éducatif dessus. Soit elle peut aussi s'en servir pour gagner de l'argent.
Mais est-ce par que exemple, tu la limites dans le temps ?
Donc, non, je la limite absolument pas.
Elle a aucune limite.
Je la limite absolument pas dans le temps.
Est-ce que tu vois, est-ce que tu trouves qu'elle est absorbée par ça, qu'elle passe trop de temps sur l'écran, qu'elle reste dans sa chambre, parce que c'est
elle
ça.
Elle est dans sa chambre. Elle est sur son écran. Donc quand je rentre, des fois sur son écran, des fois c'est sur une série, des fois c'est au téléphone parce qu'elle commence à être très piapiapia avec ses copines. Donc ça dure des heures. Et effectivement, quand je sens en fait qu'il y a une sorte d'absorption, je reviens lui mettre un petit coup de attention.
Mais... Le fait qu'elle sache toujours pas lire, ça ne t'inquiète pas?
Absolument pas. Absolument pas. Ça ne m'inquiète pas.
Nouredine qui va en discuter avec nous. Bonjour Nouredine.
Moi, j'ai pas d'opinion sur le projet.
Plus tard. Éducateur spécialisé, un fidèle des grandes gueules, Nouredine. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'interdire ou pas au moins de 15 ans?
Ah oui, complètement. Moi, je le vois non seulement dehors, mais aussi justement dans le cadre de la protection de l'enfance. Ces enfants sont absorbés par ce téléphone. Alors d'abord, qui leur cause le problème du sommeil la nuit, de la scolarité. Aujourd'hui, justement, avec l'IA, les gamins, ils vont même plus faire l'effort d'aller chercher quelque chose. Il faut qu'ils aillent le chercher sur l'IA. Après, scolairement. Certains collèges donc interdisent l'entrée du téléphone en classe, donc je vous explique même pas. Ils font tout et n'importe quoi pour le faire rentrer. Les parents qui sont, comme vous l'avez si bien dit, non seulement démissionnaires, mais en plus de ça, pas très au sujet de tout ce qui arrive sur Internet. Donc le gamin de 12-13 ans qui va sur des sites, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc effectivement...
Enfin, le portable, il est acheté par les parents quand même. Donc c'est à 12-13 ans, on donne un portable à son enfant, on sait ce qu'on fait quand même.
Ben, c'est ce qu'on fait, pas toujours, hein, parce que moi je vous dis, j'ai eu des exemples très précis. Normalement, on devrait savoir, mais justement.
Oui, mais toi, Nordine, vous êtes éducateur. Ouais. À force de déresponsabiliser sur tous les sujets les parents, leur expliquant qu'ils sont nuls, que nous on sait mieux faire l'État, eh ben voyez, on arrive à un système où maintenant même les parents ne savent pas qu'il faut pas filer un smartphone à 10, 11 ans. Enfin, et là ça va accentuer ça, c'est-à-dire que on va dire aux parents, mais rassurez-vous, on va s'occuper de ça. Non, regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous y intéressez pas, l'État va s'intéresser. Je trouve que c'est une façon encore plus de déresponsabiliser les parents il faut que les parents soient curieux, aller voir ce que c'est Snapchat, Instagram, TikTok, et voilà, c'est
c'est de boulot du parent.
Moi, je dis pas qu'il faut pointer du doigt les parents, puisque les parents, c'est eux qui ont...
Ah, c'est des mineurs, parents. Donc c'est eux qui sont responsables.
Oui, mais les mineurs, hein. Justement, quand vous achetez, quel que soit ce que vous achetez pour votre enfant, vous savez ce que vous lui achetez. Un habit, vous savez ce que vous lui achetez. Un téléphone, vous savez ce que vous lui achetez. Donc, à partir de là, si on a des enfants... je ne parle pas spécialement justement des enfants qui sont placés, mais je parle d'un point de vue général sur les mineurs. Vous savez comment
éduquer votre enfant. C'est aux parents de faire le job.
Ah oui, c'est tout à fait. C'est aux parents de faire le job dans un premier temps, et ensuite, eh ben voilà, il y a l'école, il y a tout un tas.
Mais l'école, c'est normal parce que c'est normal qu'on fixe aussi des règles à l'école.
Voilà, c'est ça. Donc on fixe des règles tout le temps. Il faut que tout le monde les applique, ces règles-là. Et aujourd'hui, on a tellement vu de dérives par rapport à ces réseaux. À un moment donné, il faut prendre les décisions qui s'imposent.
Mais parce qu'en fait, vous savez très bien, Noureddine, que pour bon nombre de parents, ils s'achètent la tranquillité avec le portable.
Aussi.
C'est-à-dire aussi. Que voilà, à 14 ans, comme ça, vous savez ce qu'on dit, comme ça, il me fout la paix. Vous savez, il est dans sa chambre. Avant, c'était, il est dans sa chambre, il lit des BD. Il nous fout la paix. C'est, il est sur son portable ou sur sa tablette. Comme ça, il nous fout la paix, quoi. Mais peu importe le temps qu'il y passe. Noureddine, je vous remercie d'avoir été dans les GG. À bientôt, Charles. Salut, Noureddine. À bientôt.
Non, moi, je pense que c'est une mesure inapplicable.
Faudrait regarder en Australie.
C'est encore une usine à gaz de députés. De l'extrême centre désœuvré. Moi, j'y vois le désœuvrement de notre classe politique avant toute chose.
Qui eux-mêmes, ces députés, passent leur temps sur leur
qui
portable.
Qui passent évidemment eux-mêmes leur temps, même à créer.
Mais c'est leur outil de travail.
TikTok, etc.
Bien sûr.
C'est aux parents.
Que des choses intelligentes.
C'est aux parents de retirer le téléphone à leurs enfants, mais en même temps. Bon, 15 ans, etc., ok. Mineur, non. Je veux dire, quand on a 15-16 ans, moi, je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, c'était le début des messageries instantanées, des MSN, etc. On était hystériques sur ce truc, on trouvait ça génial, et je pense pas que c'était mauvais pour nous. Il y avait aussi les jeux vidéo. Alors certes, quand on joue à un jeu vidéo, ce qui, à l'époque, était décrié de la même façon, on disait, ah, mais il
fallait
interdire
le jeu vidéo, par exemple.
Le jeu vidéo, aujourd'hui,
débat là-dessus.
Aujourd'hui, on préférerait presque qu'un jeune passe du temps sur un jeu vidéo où au moins il fait quelque chose, il est actif dans l'histoire, plutôt que il déroule des fils sur Instagram, etc. Donc moi, en plus, je trouve qu'on diabolise beaucoup les réseaux sociaux, alors que il y a plein de choses très intéressantes sur les réseaux sociaux. Je suis désolé,
même
mais
pour
moi,
les jeunes.
Sur Instagram, je trouve qu'il y a plein de trucs dans tous les domaines, plein de vidéos extrêmement drôles, plein de trucs sur la musique, tout à fait intéressant. Il n'y a pas que, c'est pas que une poubelle.
Frédéric
Instagram.
Veut en parler avec nous du côté de la Seine-et-Marne. Il est conseiller en immobilier. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour à tous.
Alors, qui doit intervenir, la loi ou les parents?
Ah non, surtout pas la loi. La loi n'a strictement rien à faire dans cette histoire. C'est encore une fois déresponsabiliser les parents que de vouloir faire intervenir. Et puis, c'est un peu utopique et ubuesque de vouloir légiférer. Comment peut-on légiférer sur un domaine aussi vaste? Non, c'est ce que... Moi, j'ai un petit exemple tout simple. On a, pour Noël, acheté à notre petite fille un smartphone, de façon à sécuriser un peu ses déplacements quand elle se rend notamment au collège, puisque sa mère est mère isolée et la petite se retrouve relativement seule. Par contre, on a téléchargé une application qui permet à sa mère de contrôler ses heures d'utilisation, que ce soit téléphonique ou Internet, ce qui permet effectivement déjà de limiter le temps d'utilisation sur Internet, ce qui évite aux gamins, aux adolescents de rester jusqu'à 2 ou 3 heures du matin sous la couverture et d'être complètement fatigués le lendemain. Et deuxièmement, via cette application, tous ces téléchargements d'applications sont contrôlés, ce qui veut dire que c'est moi qui suis relié à ce compte, et si elle veut télécharger une application, on me demande l'autorisation de le faire ou pas.
Donc vous savez ce qu'elle regarde, voilà. Grosso modo. Mais est-ce que vous maîtrisez le temps?
Oui, on maîtrise le temps, puisqu'on l'application permet de couper.
D'accord, ok, ça marche.
Voilà.
Okay,
voilà. Donc c'est Frédéric, il est plus efficace que cette loi qui va être votée cet après-midi, à mon avis.
Bah oui. Alors attendez, Frédéric, parce que vous nous dites, voilà, il suffit de télécharger une application, on mesure le temps, et à ce moment-là, on arrive à réguler nous-mêmes en tant que parents. On a Francky, qui est du côté du Var, à la Seyne-sur-Mer, qui a 6 enfants. Bonjour, Francky.
Salut.
Bravo pour la
bonjour. Est-ce que vous arrivez à maîtriser le temps ou c'est à la loi de le faire?
Non, c'est pas la loi de le faire. Je dirais que la
surtout
loi,
à Marseille.
Elle va essayer d'imposer quelque chose dont les parents n'ont évidemment pas connaissance. Parce qu'ils mettent tellement de temps sur leur portable qu'ils n'avaient plus leur gamin. Donc le problème est aussi là.
Oui, donc, c'est vrai. Il faudrait interdire le portable pour certains parents aussi.
Ouais, non, mais comme le disait Frédéric, les applications, nous on fait exactement pareil. Elle a une heure par jour, grand maximum, pronote compris, hein, puisqu'elle est au collège. Interdit d'internet. Je lui ai enlevé YouTube parce que évidemment il se passe plein de trucs dessus. Donc quand elle veut, c'est sur mon portable qu'elle regarde, comme ça je contrôle. Mmh. Elle a une déconnexion de 19h à 7h du matin, ce qui lui permet de mettre la table avec ses parents pour retrouver une vie normale de famille. Et ça, c'est génial. Elle a 12 ans et c'est génial.
Hey, Francky,
donc c'est possible.
Enfants.
C'est possible.
Francky et Frédéric eux-mêmes interviennent en tant que parents, responsabilisent leurs enfants. Francky, une dernière question. Les six enfants, les prénoms des six, allons-y, go.
Il les connaît pas tous, justement.
Ah mon Dieu, mais si, Leslie, Brandon, Dylan, ça c'est pour la fameuse série. Ensuite, on a Hugo, Lauriane et Maylin, la dernière.
Et ça va de quel âge à quel âge?
33 ans la plus grande, 11 ans et demi la dernière.
Bah, félicitations, merci Francky.
Non mais un père de 6 enfants.
Merci pour le service.
C'est pas évident, 6 enfants. Merci un père de 6 enfants qui arrive quand même à fixer des règles, c'est possible. Donc arrêtons de déresponsabiliser les parents.
Non, j'aimerais juste répondre. Parce que contrairement.
Non, c'est fini.
C'est la pub, malheureusement.
Mais tu vas faire une réponse en podcast.
Voilà.
Voilà. Ce qui permettra d'avoir un bonus à découvrir sur les podcasts d'ici
c'est
quelques
parfait.
Minutes. Interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée ou pas? Est-ce que c'est à la loi de s'en mêler? On va voir le résultat sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est infaisable? Vous dites oui, c'est infaisable.
Oui.
À plus de 73%. Politique dans un instant avec les grandes gueules. Encore merci à Francky, à Frédéric d'avoir été avec nous. Et on vous attend au 32-16. Glucksmann ou Mélenchon 2027, lequel est le mieux placé pour la gauche? Les deux ne sont pas dans la primaire. Glucksmann ou Mélenchon, qui peut faire gagner la gauche? 32-16.
MC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Il faut que les parents soient curieux, aller voir ce que c'est Snatchap.
Ah bah oui là.
Ah bah oui bien sûr. J'étais sûr.
Je sais chez qui ça va atterrir.
Mais c'est trop facile.
De quoi?
La cible est trop facile.
Bah oui mais c'est pas grave.
C'est un cadeau.
Charles Consigny, Joël Dagosséry, Jean-Loup Bonamy, notre triplette GG aujourd'hui avec vous jusqu'à midi. On va s'intéresser à la primaire de la gauche. Qui peut faire gagner la gauche en 2027? Glucksmann ou Mélenchon? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec nous. Raphaël Glucksmann de Place Publique était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin et bien évidemment il a eu droit à la question sur la primaire de la gauche et sa non-participation.
Non, je ne lancerai pas, je n'y crois pas, je ne pense pas que ce soit la manière d'enclencher une dynamique. Cette primaire c'est en quelque sorte une volonté de ne pas choisir entre les deux pôles qui existent à gauche et qui sont structurés et qui sont les deux identités politiques puissantes. D'un côté vous avez Jean-Luc Mélenchon, le populisme, la brutalisation du débat public, le refus de l'Union européenne. Et de l'autre, vous avez une gauche social-démocrate qui assume de vouloir gouverner le pays, qui est viscéralement pro-européenne. Et c'est l'affirmation de ces deux pôles qui permettront d'enclencher des dynamiques au moment des élections, pas cette primaire.
Brutalité et populisme face à social-démocratie, qui peut l'emporter? Glucksmann ou Mélenchon? C'est au 32-16 que vous le dites au GG.
C'est assez amusant parce que lorsque vous regardez qui veut une primaire à gauche, ce sont tous les
tocards.
Alors je dirais
que
pas
les losers,
ça. Je dirais
que les losers.
Tous les seconds rôles ou les troisièmes
les
rôles, ceux qui ne sont pas dans la course pour l'instant, parce qu'effectivement ceux qui sont les mieux placés, Glucksmann et Mélenchon, n'en veulent pas de cette primaire. Et ceux qui la défendent, c'est Olivier Faure, Marine Tondelier, Lucie Castet, Clémentine Autain, Ruffin, etc. Des gens qui a priori pour l'instant sont pas vraiment dans la course. Et puis là aussi, il y a un problème avec cette primaire, c'est-à-dire que ensuite vous voulez demander si par exemple il y a une primaire avec Mélenchon et Glucksmann, et si c'est Glucksmann qui gagne, par exemple, vous demandez à Mélenchon de soutenir Glucksmann en campagne et de faire campagne pour lui.
Mélenchon
parce que c'est ça.
Avait failli se retirer pour Benoît.
Ouais, c'est le principe, c'est le principe du primaire.
Tout.
C'est-à-dire que le perdant doit soutenir
tout.
Le gagnant. Vous imaginez Glucksmann s'il perd, soutenir Jean-Luc Mélenchon? Ça n'a pas de sens. Et là où il a raison, Glucksmann, il rappelle l'histoire de la gauche. Il y a toujours eu deux gauches. Une gauche radicale, avant, pendant très longtemps, c'était le Parti communiste. Maintenant, ce sont les insoumis. Et une gauche du gouvernement, c'est ce qu'on appelle la social-démocratie. Là où les écolos, on ne sait plus trop où ils sont. Donc Marine Tondelier essaie de faire un grand écart qui est un peu incompréhensible. Alors après, quel mieux placé entre Glucksmann et Mélenchon, selon vous,
Joël?
C'est compliqué parce que Glucksmann, c'est un peu Macron, Macron mou, tu vois. Donc c'est Macron à un niveau de Wish, voilà, on peut dire ça comme ça.
Donc c'est un deuxième Macron, un nouveau Macron.
Ouais, mais encore en plus mou, donc c'est compliqué. Il va récupérer qui? Des macronistes déçus, des macronistes déçus mous, voilà.
Et puis
donc,
la gauche qui ne veut pas de Mélenchon, s'il y en a quand même.
Voilà, peut-être un petit peu, mais je veux dire, Glucksmann, il remet rien en question, rien. Tu vois, alors que tu vois que la France, ça va mal partout, mais il n'y a pas de remise en question dans Glucksmann. Il ne dit pas ça, je vais changer ça complètement, etc. Il n'y a rien. En fait, il y a une sorte de continuité encore plus molle. Donc, je ne vois pas comment il peut faire gagner la gauche.
Celui qui a Hollande bis, quoi, en fait.
Même encore en dessous, c'est pas facile. Donc vraiment, je veux dire, il incarne pas grand chose. Et en plus, il y a pas de,
tu vois, il
y
a
pas
une sorte de. Il a fait un bon score aux européennes.
Oui, mais est-ce que tu sens qu'il y a des troupes derrière lui? Est-ce que tu sens qu'il y a des, tu vois, il y a une sorte d'engouement.
Macron, tu trouves qu'il y avait pas de troupes au début? Macron, ils étaient quatre, hein.
Ouais, mais il était en marche. Il est parti chercher les gens. Là, Glucksmann, qu'est-ce qu'il a mis en place pour aller chercher des gens? Bon, rien pour l'instant.
Donc tu crois pas? Toi, tu mets plus sur Mélenchon.
Je n'y crois pas. Mélenchon, je ne sais pas s'il peut faire gagner la chose parce qu'il est aussi tellement détesté. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il réveille, c'est qu'il a un programme clair de remise en question que je n'aime pas. Mais en tout cas, il remet des choses en question. Voilà, il y a une vision. Donc, quitte à mettre quelqu'un pour incarner quelque chose à gauche, je dirais plus Charles. Que c'est Mélenchon.
En tout cas, Mélenchon avait était passé pas loin de se retirer pour se ranger derrière Benoît Hamon. On sait comment
je n'y crois pas.
Mélenchon a fait 20% à l'époque et Benoît Hamon 2% ou 6%.
6%. Qui était finalement un bon score au regard de celui qu'a fait Anne Hidalgo.
Il avait fait toute sa campagne sur les perturbateurs endocriniens. Il parlait que de ça. C'était passionnant. Résultat, il a fait 6%. Donc, Mélenchon se retirera pas. Moi, je ne déteste pas et je ne diabolise pas Mélenchon, que je trouve être quand même un personnage intéressant dans ce paysage politique d'analphabète. Je le trouve cultivé et bon orateur.
C'est sûrement le meilleur.
C'est la gauche radicale et je pense que son programme est le contraire de ce qu'il faut pour la France. Mais le personnage je ne le diabolise pas autant que le fait Glucksmann, par exemple, qui le fait, à mon avis, pour des raisons très électoralistes.
Je rappelle que tu t'es affronté à Jean-Luc Mélenchon dans un moment resté célèbre sur les réseaux sociaux avec le fameux...
Je venais de découvrir Nicolas Kipei.
Nicolas Kipei lors de notre émission à l'Assemblée nationale.
Absolument. Et c'était une découverte pour lui. Et pas pour le public, par contre, visiblement. Quant au jeune Glucksmann, c'est un personnage un peu de série Arte. Voilà, c'est le jeune.
Pour cadrer dépressif.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est un jeune mec, ouais. Assez beau gosse, voilà, qui est idéaliste et qui pense que, en fait, ce qui est bon pour le canal Saint-Martin est bon pour la France. Et que tout le monde doit vivre comme les gens qui appellent leurs enfants Prune et Eugène et qui s'achètent des potimarrons au marché d'Aligre.
Bio.
Libre à lui. Je ne sais pas lequel des deux. Honnêtement, je pense qu'aucun des deux ne peut faire gagner la gauche. À vrai dire, si je suis tout à fait honnête, je pense que la ligne Glucksmann, à mon avis, est quand même plus rassembleuse à la fin des fins. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est très bon pour un premier tour, mais c'est difficile sur un second tour. Alors que Glucksmann, c'est un peu le contraire. C'est plus mou pour le premier tour, mais ça rassemble plus au second tour. Je n'exclus pas du match, même si vous allez hurler, mais il y en a un qui s'active effectivement beaucoup, dont on a parlé, c'est le jeune Hollande, n'a pas dit son dernier mot et qui est actif. Et pour qui, moi, j'ai plutôt du respect, fondamentalement. Ce match à gauche me paraît assez ouvert.
C'est François Hollande qui s'est abstenu à l'Assemblée nationale lors du vote sur les frères musulmans pour les inscrire.
C'est courageusement abstenu.
Ça, j'avais pas vu. Ça m'étonne pas. La gauche a un problème avec l'islamisme.
Pardon, mais est-ce que la France, la vraie question, est-ce que la France veut le retour de la social-démocratie qui a dirigé le pays jusqu'à François Hollande et qui l'a aussi un peu dirigé avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron vient de ça, même si c'en est un peu
droitisé,
mais vient la social-démocratie. Est-ce que les Français voudront de nouveau la social-démocratie?
C'est pour ça qu'ils essayent tous de comment dire, des macrono-atalistes, du bloc central à la France insoumise, ils essayent de nouveau de nous dire que Hermann Göring est aux portes de l'Élysée. C'est ça qu'ils essayent de nous dire. Et donc, ils diffusent les images de Heiss, etc., etc. Donc, sauf à refaire le coup des nazis, qui peut marcher, parce que bon, les Français, on voit bien, parfois ils prennent peur. Et voilà, je pense que le match de cette présidentielle est encore très ouvert.
On a Nadine qui veut intervenir. Nadine Deleur, une fidèle des GG, traductrice. Bonjour Nadine.
Bonjour à tous.
Bienvenue Nadine. Alors, Glucksmann ou Mélenchon, qui peut faire gagner la gauche là?
Je pense que Glucksmann n'a aucune chance. Il fut une époque où j'ai cru que peut-être ça pouvait être quelque chose de nouveau, Glucksmann, etc. J'ai donc adhéré à Place Publique que j'ai quitté, encore une fois, très vite.
Pourquoi ?
J'ai du mal à entendre Glucksmann aujourd'hui taper sur la FI, parce qu'au moment où il y a eu cette fameuse dissolution, etc., je faisais campagne et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui en direct, et je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait s'allier avec la FI, qui quand même, qu'on connaît.
Après la dissolution, vous dites, là, en 2024.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pour les élections législatives qui ont été faites après la grande dissolution. Donc lui ne voyait pas de problème à ce que les FI soient dans le circuit. Moi, personnellement, je lui ai dit non, moi, je ne suis pas d'accord dans la mesure où les FI sont quand même très antisémites. Hein. Je suis bien placée pour le savoir. Il devrait l'être aussi. Mais, franchement, ça ne l'a pas choqué. Bon, ok, on a vu le résultat. Je pense que si à cette époque, il s'était démarqué, il avait demandé aux autres de ne pas s'allier avec la FI, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait eu une petite majorité à gauche.
Je crois qu'il a été un peu piégé à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que il est à la télévision le soir du résultat des européennes. Il fait un bon score d'ailleurs, il fait 14%. Oui. Et au même moment, Marine Tondelier pour les écolos est en train de dealer avec le nouveau Front Populaire, avec les Insoumis pour créer le NFP et pour s'organiser très vite. Et je crois qu'il n'a pas eu le choix à ce moment-là. Il n'y a pas eu beaucoup de temps parce qu'il fallait vite s'organiser.
Ils ont tordu le bras.
Et je crois qu'il s'est fait tordre le bras, effectivement, comme dit Charles.
Il n'était pas dans la boucle.
Pour adhérer, il n'était pas dans le truc. Il s'est fait un peu avoir. Peut-être que d'ailleurs, ça montre que face à un fauve comme Jean-Luc Mélenchon, ça va être compliqué pour Glucksmann, parce que Mélenchon, c'est un type expérimenté, il a suffisamment de cynisme pour faire une campagne. Est-ce que Glucksmann est suffisamment cynique et suffisamment fou pour y aller, quoi?
Non. Malheureusement, il manque d'expérience politique, d'expérience du terrain. Et de toute façon, aujourd'hui, les autres, que ce soit le PS, etc.,
non. Et Olivier Faure, alors?
Olivier qui?
Nadine, alors Jean-Loup, qu'est-ce que tu en dis?
Ouais, c'est intéressant, j'ai plusieurs remarques. La première, c'est que notre ami Olivier, ici présent, oppose ce qu'il appelle la gauche radicale à la gauche de gouvernement. Mais pourquoi est-ce que le fait d'être radical t'empêcherait de gouverner?
Parce qu'elle n'a jamais gouverné, c'est pour ça que je dis ça, c'est historique, c'est factuel, qu'elle arrivera au pouvoir.
Mélenchon a déjà été ministre, il était ministre de Jospin.
Oui, enfin, il était au PS à l'époque, c'était un gouvernement social-démocrate, mais il a changé.
Voilà,
aussi,
on peut être radical et gouverner, il y a peut-être d'ailleurs une envie de radicalité.
Sauf que tu remarqueras que nulle part ça n'arrive. En Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn n'y est pas arrivé. Bernie Sanders aux États-Unis n'y arrive pas. La gauche radicale
jamais arrivé, que ça n'arrivera jamais.
Ça peut arriver.
La deuxième chose,
sur un malentendu,
c'est que je félicite nos deux compères. Je félicite Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann de refuser la primaire qui ne fait absolument pas partie de la tradition politique française et qui aboutit à des catastrophes. Emmanuel Macron,
à la victoire d'Hollande,
qui est une catastrophe. Emmanuel Macron, qui est une catastrophe.
Mais pas pour eux.
Emmanuel Macron,
c'est la seule qui a marché,
tous les élus locaux. Emmanuel Macron l'avait très bien dit en 2017, en 2016, je ne participerai à aucune primaire parce que c'est un concours de vachettes digne d'Interville.
Faut arrêter avec cette histoire de la primaire.
C'est le premier tour, la primaire.
Faut arrêter avec cette histoire de la primaire.
Charles Consigny, il y a une élection présidentielle à un tour aux États-Unis.
Fillon a failli gagner avec sa primaire.
En France, elle est à deux tours. Ça veut dire que ça fait quatre tours d'élection si tu fais une primaire à deux tours. Ça ne va pas du tout.
Bon.
La primaire est une connerie.
Trump a gagné grâce à la primaire.
Nous ne sommes pas aux États-Unis, il n'y a qu'un tour à la primaire américaine, alors qu'il y en a deux à la primaire française, Charlie 39.
Ça ne change rien.
Et nous ne sommes pas aux États-Unis. Et troisièmement, c'est que pour répondre à ta question, je pense que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup mieux placé. Alors peut-être qu'au deuxième tour, Raphaël Glucksmann sera en effet plus rassembleur et plus rassurant. Mais comme il n'a absolument aucune chance de se qualifier pour le second tour,
si tout le monde est candidat.
Et donc, mais Jean-Luc Mélenchon fera de toute façon un meilleur score au premier tour que Raphaël Glucksmann. Et il est bien, il a une base sociologique beaucoup plus large et beaucoup plus diversifiée. Il est plus cultivé, il est meilleur orateur, il a plus de stratégie.
Tout dépend dépend quand même du candidat.
Il occupe beaucoup mieux le terrain.
Tout dépend du candidat centriste, enfin, qui sera l'héritier de Macron, même si Macron
oui, mais
il
n'y a plus vraiment d'héritier.
Non, mais je veux dire, Glucksmann, il ne peut fonctionner que s'il récupère une partie des macronistes. Mais... Or, si, je termine, oui. Si Gabriel Attal est candidat, par exemple, ça sera compliqué. Si même bah, Édouard Philippe est candidat.
Mais il y a une certitude, voilà. C'est que Jean-Luc Mélenchon fera plus de voix au premier tour que Raphaël Glucksmann,
quel que soit le score. La gauche n'a pas le réflexe vote utile. Elle a un vote de conviction. Et donc, elle préfère quand même, parce que c'est plus proche de ses convictions, voter Mélenchon au premier tour pour montrer sa conviction plutôt que de voter utile.
Mais même on va terminer avec Christophe, bonjour.
C'est pour ça que vous avez choisi Benoît Hamon.
Oui, Christophe, qui est militant insoumis du côté de l'Ardèche. Alors, Glucksmann ou Mélenchon? Je pose la question pure forme, vu que vous êtes militant
bien
insoumis.
Bien sûr, parce que c'est Mélenchon. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de compléter un petit peu. Nous, pour nous, le peuple de gauche, on a tranché en 2022, on a voulu un programme de rupture, on a voulu envoyer au second tour, même s'il n'est pas arrivé, le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui avait le programme de rupture. Si on aurait voulu la social-démocratie, on aurait envoyé Hidalgo. Ensuite, moi, la question que je pose, c'est que je pense que M. Glucksmann a plus sa place dans une primaire du centre que dans une primaire de la gauche, puisque ces deux députés qu'il a à l'Assemblée nationale, M. Rousseau et M. Houillet, viennent de la Macronie. Donc, je pense qu'il y a un petit peu trop pris sur la marchandise. Voilà.
Et vous, par exemple, vous qui êtes un homme de gauche, Christophe, est-ce que vous êtes pour une primaire où vous dites Mélenchon a raison de refuser d'y participer?
Ça a été dit par, ça a été dit sur le plateau. On a une élection à deux tours. Le premier tour, c'est voilà, il y a pas de primaire à avoir.
Ben oui, il y a pas de primaire. Le candidat naturel de la gauche, c'est Mélenchon.
Christophe,
voilà, c'est
prenons tout. L'hypothèse. Pour vous, en tant que militant insoumis et donc votant, ou c'est Raphaël Glucksmann qui se qualifie pour le deuxième tour, ça vous posera un problème de voter pour lui ou pas face à un candidat de droite? Non.
À mon avis, non.
Face à qui? Un candidat de droite ou d'extrême droite?
On va dire, selon les sondages, ça pourrait être Bardella. Donc.
Je vois assez peu un second tour Glucksmann-Retailleau.
Non, allez-y.
C'est pas le sujet, mais Bardella, elle est tellement faible qu'il pourra jamais se qualifier, c'est pas possible. Mais admettons.
Bardella, Mélenchon, Bardella gagne. Hein.
Alors, je vais faire une réponse de politicien, pas une voix pour l'extrême droite.
D'accord. Merci Christophe.
Voilà.
Merci Christophe et merci Nadine d'avoir été toujours dans les sujets. Alors, Glucksmann ou Mélenchon, qui peut faire gagner la gauche? On va regarder ce que vous en pensez. Glucksmann ou Mélenchon? Vous mettez Mélenchon à 60,5%.
Je vois assez mal un second tour Glucksmann-Bardella.
C'est assez net. Dans un instant, l'amende à 500 euros pour les consommateurs de drogue, dissuasif ou pas? C'est Laurent Nunez qui le confirme aujourd'hui dans les GGS dispositifs.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
C'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Et si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à disposition, bien évidemment. C'est-à-dire, vous rattrapez l'émission, mais vous avez aussi les petites discussions qui sont les à côté de l'émission, les coulisses. Charles Consigny, Joël Dagosséry et Jean-Loup Bonamy, voilà le trio de GG pour parler maintenant de l'amende de 500 euros pour les consommateurs de drogue. Je sais qu'on l'a déjà passé hein, dans les grandes gueules. J'avoue mon inculture totale. Qui est-ce?
Je sais plus qui chante ça, mais c'est sur Coco, la femme de l'ancien rappeur Ice-T.
Joël et moi, on est des clubbeurs quand même, parce qu'on a réagi immédiatement.
O.T. Genesis.
O.T.
Genesis. O.T. Genesis. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.
Un autre rappeur.
Mes respects, MC Nunez. Mes respects, monsieur le ministre de l'Intérieur, annonce aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, plutôt confirme dans les colonnes du Parisien, qu'il y aura bien une amende de 500 euros pour les consommateurs de drogue.
Alors, elle existe déjà. For sure. Elle est à 200 euros. Alors justement, l'homme qui parle en anglais, c'est Emmanuel Macron, qui l'a annoncé, souvenez-vous, lorsqu'il s'est rendu à Marseille en décembre dernier. Il avait dit, on va passer à 500, il faut taper plus fort. Alors, est-ce que ça marche? Il faut savoir que ça marche pas à 200. C'est-à-dire qu'ils ont un problème de taux de recouvrement. D'ailleurs, on va nommer des commissaires de la République qui vont avoir pour mission d'améliorer le couvrement de ces amendes. C'est ce que, d'ailleurs, le président avait dit.
Ils coûteront peut-être plus cher que ce que ça
voilà, on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. On on va passer à 500 euros l'amende parce qu'il faut taper au portefeuille, parce que ce n'est pas festif de se droguer. J'en ai le ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure dans les quartiers et d'en avoir d'autres qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue. Voilà ce qu'avait dit à l'époque le président de la République. 500 euros, on pourrait même leur retirer le permis. Est-ce que c'est vraiment efficace? Qu'est-ce que vous y croyez?
Alors, Jean-Loup, minute cinéma. Est-ce que vous avez déjà vu le film, l'excellent film Requiem for a Dream?
Bien sûr.
Voilà. Fait. Dedans, vous voyez, par exemple, à quoi peut ressembler l'abcès sur une veine d'un héroïnomane. Des gens qui sont prêts à courir ce type de risque. Vous voyez, les différentes infections liées à l'héroïne, les problèmes psychiatriques liés à la consommation du crack ou du captagon. Je ne pense pas que une amende, quelle qu'elle soit, et a fortiori de 500 euros, puisse les dissuader, vu qu'en fait, ils risquent déjà des choses beaucoup plus graves en consommant de la drogue. Donc moi, je ne crois pas du tout à cette méthode.
C'est pas 500 euros qui te sort de l'addiction.
Bah oui, c'est pas 500 euros qui te sort, qui va empêcher les mecs porte de la chapelle à la colline du crack de se faire leur pipa crack, quoi. Excusez-moi, mais.
Non, moi je pense que...
Et c'est pas sûr que ça s'adresse à eux, en fait.
Oui, mais même ça s'adresse à qui, alors?
En l'état.
Ça s'adresse aux petits consommateurs.
Le petit consommateur, c'est pas lui qui fait vivre le deal.
De cannabis ou autre.
Mais il continuera quand même de consommer.
En l'état, nous avons une politique de lutte contre le trafic de drogue qui est extrêmement déséquilibrée, puisque nous avons une politique qui est dure et répressive avec les trafiquants, ce qui est bien normal, et qui est totalement permissive avec les consommateurs, ce qui est anormal. Et il faut dire les choses, maintenant la drogue s'est répandue à tous les étages de la société, militant France Insoumise qui fume un pétard, jusqu'au macroniste décérébré qui prend de la schnouf. Il faut dire les choses comme elles sont dans les soirées parisiennes. C'est ça aujourd'hui la réalité de...
C'est partout, c'est pas que dans les soirées parisiennes,
c'est partout, elle est à la campagne. C'est pour ça que je dis que c'est partout.
Ils sont partout.
Macroniste décérébré, avec de la schnouf jusqu'au dessus.
La démocratisation de la drogue, c'est fait que les pêcheurs aussi prennent de la coke maintenant.
Mais bien sûr, on apprend que même les pêcheurs en prennent. On apprend qu'il y en a, il y en a à tous les étages.
Les médecins.
Donc cette politique n'est pas équilibrée, puisque tant que vous avez une demande forte, évidemment, vous avez une offre qui y répond. Ça génère tellement d'argent que maintenant. Une corruption très importante se répand. Elle se répand parmi les personnels qui gèrent les, qui dans les douanes, dans les greffes, dans les dockers, dans les. Elle se répand partout. La corruption, elle est extrêmement importante. Même il paraît que l'OM est en train de passer sous le contrôle de la DZ Mafia. J'ai entendu des histoires à ce sujet-là. La DZ Mafia s'institutionnalise et investit maintenant.
Ouais, ce sont des rumeurs, évidemment.
Oui, c'est des rumeurs, mais c'est le même phénomène, si vous voulez, qu'en Italie, où la mafia finissait par investir dans l'immobilier, dans les clubs de foot, dans la politique, etc. Le volume d'argent est tel que c'est en train de s'organiser comme ça. Il y a une excellente série, d'ailleurs, que je signale, d'Olivier Marchal, sur Marseille, Pax Massilia, qui raconte assez bien ce phénomène, qui est assez crédible. Donc, moi, je suis favorable à cette amende de 500 balles. Je pense que d'ailleurs.
Je crois que ça sera vraiment efficace.
Je pense qu'on pourrait la mettre à 1500 balles pour être. Oui, mais c'est efficace
les
dans les couches.
Tu n'es pas solvable, tu sais bien.
Bah, tu sais pas. Regarde les
soit
amendes.
Soit tu n'es pas solvable, soit tu échappes
Olivier,
parce qu'il y a d'autres moyens de te faire livrer.
Regarde les amendes de stationnement, on finit toujours par les recouvrer, par exemple.
Ouais.
Je pense pas que ce soit absurde.
Mais c'est plus facile. Ta bagnole mal garée, elle est facile à verbaliser.
Mais quelqu'un dont on prend Joël, on va quelqu'un qu'on verbalise avec sa carte d'identité, je suis désolé.
Est-ce qu'on prend vraiment flag?
On va écouter Agostino. Bonjour Agostino.
Bonjour les GG.
Salut Agostino. Bonjour, routier du côté de l'Eure-et-Loire. Qu'en dites-vous?
Alors, moi j'ai fumé toute ma vie. Moi j'ai arrêté, je vous dis, c'était mon 9e permis, donc je me disais qu'au 10e permis, ils ne vont pas me laisser passer le permis. Et ça m'a donné un peu la force d'arrêter ça, parce que déjà, je voulais arrêter. C'est très dur à arrêter, je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai fumé depuis l'âge de 14 ans, j'ai 56 ans, vous voyez, enfin bref. J'en garde des séquelles, j'aurais dû arrêter depuis longtemps. Et c'est vrai que j'aurais eu cette amende-là depuis longtemps, il y a longtemps que j'aurais arrêté, parce que j'aurais jamais eu les moyens de donner 500 balles comme ça pour un bédo.
Il y avait un sentiment d'impunité, en fait.
Impunité, non, parce que tu peux.
Non mais parce que vous n'y étiez pas sanctionné, c'est-à-dire vous preniez pas de PV.
Quand même, annulation de permis, tout ça, quand même, c'était quand même. Ça m'a pas suffi.
Mais pardon, mais 9 fois avant qu'on vous l'annule complètement, enfin, je comprends pas.
Enfin, non, 8 fois, et là, c'était mon 9e permis. Là, c'est mon 9e permis. Il a fallu que je repasse le poids lourd, le super lourd. Ouais. Enfin, ça m'a bien maté, mais enfin, il était temps, 56 ans, il était temps, j'ai mis le temps. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, l'État, ils m'ont maté, et puis ils ont eu du mal, mais ils ont réussi. Voilà, avant j'étais un voleur, maintenant je suis un gars depuis Sarkozy. Hein, Sarkozy a dit peine maximum pour les récidivistes. Bah moi ça m'a suffi et je voulais pas aller 7 ans en prison.
Donc les 500 euros plus jeune, ça vous aurait dissuadé, vous auriez arrêté tout de suite.
Bien sûr qu'il y a les moyens de. Oui. Et surtout si ça peut arrêter le moindre dealer, enfin ça va enrayer quand même. Comme vous disiez tout à l'heure, oui c'est pas le petit consommateur qui.
Oui mais les 200 ça fonctionne pas. Les 200 ça fonctionne pas. Non alors peut-être parce que le montant est trop faible, mais parce que on n'arrive pas à recouvrir l'amende. Donc, à 200, on n'y arrive pas, à 500, ça va être encore plus compliqué.
Non, moi, je vous dis un truc, moi, je suis la preuve vivante qu'il n'y a que la répression qui marche. Voilà. Il n'y aura pas de répression. Il n'y a que la répression qui. Moi, j'en suis certain que, oui, bien sûr que ça, si le gars, il n'a pas les 500 euros, vous envoyez un issue chez lui, vous prenez sa PlayStation, sa télé, tout ça, à un moment donné. Moi, je sais que, franchement, j'ai commencé par voler des bonbons et des gâteaux. Hein, et du coup, je suis devenu kleptomane. Mais à chaque fois, les gendarmes, ils seraient venus chez moi, ils m'auraient perquisitionné, ils m'auraient enlevé mes affaires et tout. Je crois pas que j'aurais volé autant de fois. Je suis passé 150 fois au tribunal, vous voyez. Ça m'a mal.
150 fois.
Combien c'est là, cher monsieur, vous avez peut-être quand même un petit problème, en l'occurrence. Vous êtes un cas un peu particulier.
Il l'a réglé, visiblement.
Un cas un peu particulier.
Joël.
En particulier, monsieur, il y a pire que moi. Hein. Je vous le dis, franchement, je suis pas un cas isolé. J'étais juste un petit kleptomane de barcotille, hein, par rapport à d'autres. Je suis pas le pire.
105 fois au tribunal.
150 fois. Bah, moi, je peux vous donner mon. Moi, je peux vous donner mon.
Et 8 fois le permis enlevé.
Comment?
Peut-être que si on avait tapé plus fort dès le début, je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que si on tape plus fort dès le début, ça fait réfléchir. Mais le problème, c'est que la justice française, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, c'est du sursis, un rappel à la loi, même si ça existe moins.
Il a toujours volé moins que les politiques, quand même.
Agostino, je vous remercie de ce témoignage.
Quand j'ai quand même fois, j'étais au tribunal avec mon sac, je disais à ma femme, je vais y aller, de toute façon, c'est sûr, je vais aller en prison. Non, il me remettait du sursis.
Des peines plus lourdes.
Dans tous les cas, vous en êtes sorti et c'est surtout ça qu'il faut retenir.
Exactement.
Et je vous remercie. C'est surtout à vous, vous le devez aussi.
Si vous voulez, je peux vous donner mon identité hors antenne.
Non, mais c'est Agostino, ça va aller, mais merci du témoignage.
Merci
Joël.
À vous.
Je trouve que 500 euros, c'est pas cher payé, compte tenu du nombre de morts. Je mettrais au moins 1500.
Ah, toi, t'es comme ça, toi.
Oui, je mettrais. Oui, je suis.
Il y a de l'inflation.
Oui, je suis comme ça.
Il y a de l'inflation.
Parce que compte tenu.
Joël, ministre de l'Intérieur.
Compte tenu des morts que ça fait, compte tenu du nombre de consommateurs, je crois que 500 euros, c'est pas cher payé.
Et on va régler
le problème
de la
dette. Et je pense que 200 euros, c'était irrécouvrable parce qu'en fait, le montant pour recouvrer cette somme dépassait les 200 euros. Quand vous savez, moi j'ai fait du contentieux, quand vous savez ce qu'il faut payer en termes de procédure judiciaire, d'huissier, etc., ça coûte plus cher. Donc en fait, tu passes cette dette en perte et c'est terminé. Par contre, à 1500 balles, tu dis quand même, ça vaut le coup d'aller réveiller un huissier, tu vois. Donc,
mais quand tu attrapes les types. L'efficacité de l'amende, comment tu attrapes? Aujourd'hui, tu te fais livrer. C'est-à-dire qu'il faut, l'attraper en flagrant délit. Il faut des policiers sur les points de deal, qui surveillent, et qui attrapent ensuite le consommateur.
Oui,
on a les moyens de ça, on le fait.
C'est justement la question.
T'as déjà vu à Paris des consommateurs se faire interpeller? Moi, j'en ai jamais vu, hein.
Non, mais si, franchement, si t'avais des policiers qui étaient sur les points de deal, tu passes devant. Va te balader, dans le métro à Stalingrad, tu vas voir les
ils sont sur le quai.
Je pense qu'ils sont sur le quai.
Oui, mais il n'y a pas de policiers.
Si tu voulais attraper du consommateur, normalement tu pourrais. Voilà.
Tu pourrais attraper. 500, on va leur demander du rendement.
Il n'y a pas assez de policiers.
Il y a deux métros, il faut faire des contrôles. C'est-à-dire d'un côté Stalingrad, comme l'a très bien dit Joël, et Porte de la Chapelle, puis aussi Invalide en face de l'Assemblée nationale. Enfin, un petit contrôle.
Merci encore à Agostino d'avoir été avec nous. Alors 500 euros d'amende, ça fait débat dans les GG pour les consommateurs de drogue, dissuasif ou pas? Non, vous dites ce n'est pas dissuasif à 71%. Allez, la troisième heure des GG dans un instant. à 11h20, on a notre gagnant pour le séjour Bellambra. N'oubliez pas, vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS 732-16. On a un séjour d'une semaine en famille à gagner dans l'un des 45 clubs et hôtels Bellambra. Vous avez la montagne, vous avez la mer et c'est un all-inclusive premium.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.